Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Raison gardée. Avec nous aujourd'hui au micro, l'ami Charles. Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour Jean-Claude.
Et salut à vous deux.
Et Jean-Claude. Et ce mois-ci, pour l'émission Raison gardée, une spéciale, nous sommes en décembre. De nombreuses émissions, de nombreux journaux se sont emparés d'un sujet qui nous touche beaucoup forcément à la Fédération de la Libre Pensée. C'est la question de la laïcité, puisqu'on célèbre, en ce mois de décembre 2025, les 120 ans de la loi de 1905, qu'on appelle souvent la loi de la laïcité. Ce n'est pas son intitulé exact.
Séparation des églises et de l'État.
Voilà, séparation des églises et de l'État. C'est une loi importante qui est le fruit d'une histoire assez longue et mouvementée, qui a même suscité quelques moments de tension et même un peu de violence. On aura peut-être l'occasion d'en parler l'année prochaine, parce qu'on pourra parler des inventaires qu'il a fallu faire après la promulgation de cette loi.
Et notamment à Nancy.
Mais on rappelle effectivement que, alors que la France catholique s'était présentée pendant des siècles comme fille aînée de l'Église, une France plus moderne s'était exprimée au moment de la Révolution. Et les révolutionnaires avaient déjà une première fois tenté de séparer justement les Églises et l'État. On peut rappeler très rapidement que Napoléon a réinstallé un concordat qui lui permettait, lui en tant que responsable politique de son empire, d'avoir le contrôle sur les religions officielles qui s'exprimait en France. Et puis c'est la République et la Troisième République qui porte non seulement, les deux combats vont ensemble, un combat pour l'école républicaine, gratuite, obligatoire et laïque, et puis une laïcité partout ou presque d'ailleurs. Il faudra qu'on le précise.
Ah oui.
Parce que la loi n'a pas été appliquée strictement partout, et d'ailleurs aujourd'hui elle ne l'est toujours pas. Alors, en 1905, il y a quand même des camps qui se sont opposés autour de ce projet de loi, des débats très intéressants. Il y a un téléfilm passionnant qui s'appelle La séparation.
C'est plus qu'un téléfilm, je crois. C'est un film et c'est un très très bon film.
Un très bon film qui remet en scène justement les débats à l'Assemblée nationale à partir des documents qui permettent d'avoir le verbatim de ces échanges. Et puis, lors d'une précédente émission, on avait parlé d'une bande dessinée qui est très bien aussi, qui s'appelle justement La laïcité, et qui rend compte de ce travail d'écriture de la loi et de ces efforts de compromis faits par les différents camps. Alors on peut rappeler qu'il y avait un camp chez les Républicains qui était des anticléricaux très très fermes, qui voulaient des mesures vraiment répressives contre les religions, et puis ceux qui passaient pour anticléricaux plus libéraux, comme par exemple Ferdinand Buisson, qu'on connaît bien à la Libre Pensée, ou les socialistes Briand et Jaurès, qui eux plaident pour une liberté de conscience. Et qui, pour cela, donc, considère qu'il faut laisser une liberté aux religions, qu'on ne peut pas chercher à tout interdire partout. Parce que certains voulaient interdire absolument toute manifestation.
Même le port de la soutane.
Le port de la soutane, changer les calendriers, interdire les cloches des églises. Voilà, c'était vraiment cette idée d'effacer la religion de toute la sphère et tout l'espace même public. Ce sont les seconds qui l'ont emporté, les partisans de la liberté de conscience, et donc l'article 1 de cette loi énonce « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions d'un ordre public démocratique », bien sûr, faut-il le préciser. Cette mention de la liberté de conscience, elle est très très importante, puisqu'elle permet de croire, de ne pas croire, et puis bien sûr elle permet aussi d'être protégée pour qui veut changer d'expression religieuse, ou qui veut désormais exprimer son athéisme, voilà, ou son agnosticisme. Enfin bref, toute position est désormais protégée par l'État, qui ne reconnaît aucune religion en particulier. Alors, Il y a des petites. La loi a été quand même assez finement pensée. Et par exemple, s'il y a des aumôneries dans les hôpitaux et les prisons, qui, elles, vont être financées sur les fonds publics, c'est bien simplement parce qu'on considère que les personnes sont enfermées. Et donc, là, il incombe à l'État qui voit ses citoyens enfermés d'aider quand même à l'expression et à la pratique du culte.
Mais oui, aussi dans l'armée.
Et aussi dans l'armée.
Bah, oui. Oui. Bah, ils sont d'autant plus utiles dans l'armée, je rappelle simplement sur le plan de l'histoire, que l'Église bénissait les canons. Et je voyais un film « Joyeux Noël » il n'y a pas longtemps, où c'était des anglicans, mais ce qui tient lieu d'évêque expliquait « il faut tuer les Allemands, il faut tous les tuer ». Il expliquait ça comme ça, tranquillement. C'est pas mal,
oui,
pour un curé.
Oui, bon, écoute, c'est très vieux, ça me fait penser à une page de Candide, de Voltaire, quand ce pauvre Candide se retrouve au début de son voyage confronté à une guerre entre des Abares et des Bulgares, et qu'il voit les troupes partir en chantant les Te Deum dans les deux camps, bien sûr, chacun pensant avoir Dieu avec lui.
Gott mit uns.
Alors, les protestants et les juifs appliquent la loi. C'est du côté des catholiques, qui est la religion la plus représentée à ce moment-là en France, que les choses vont coincer, notamment parce que le pape de l'époque, le pape Pie X, ne voit pas d'un très bon œil cette loi. On peut s'en douter quand même.
Ah, tu cultives l'euphémisme, toi. Ne vois pas d'un bon œil.
Oui, tu vois, je suis dans le respect. C'est un mot qui revient très très souvent dans les débats de l'Assemblée nationale à ce moment-là. La question du respect de l'adversaire, des égards qu'on doit aux églises. D'ailleurs, entre eux, justement, ceux qui étaient plutôt les anticléricaux autoritaires reprochaient énormément à Briand certains euphémismes ou en tout cas des délicatesses qu'ils trouvaient hors de propos. Et alors justement, Briand a essayé de calmer le jeu le plus souvent possible. Et notamment, il y avait quelque chose qui était important pour l'Église, c'était la question des biens et de la gestion des biens. Donc, on rappelle qu'en même temps, dans cette loi, il est prévu que si désormais des lieux de culte sont créés, le financement incombe totalement aux fidèles et leur entretien.
Oui.
Oui, Jean-Claude, tu voulais dire...
Non, moi je pense à une chose, c'est un peu comme ça au fil de la conversation. En fait, la laïcité, qui est quand même quelque chose de très français, il faut le dire, plonge ses racines assez loin dans notre histoire, c'est marrant. Et tu as fait allusion à la Révolution. C'est quand même clair. La confiscation des biens de l'Église, etc., c'était déjà un acte, très clairement, hostile à la religion, mais ça remonte plus loin encore. On avait un régime en France qu'on appelait le gallicanisme, qui était déjà un peu en rupture, pas un peu, mais qui était en rupture avec les autres pays qui devaient se soumettre au pape complètement. Je rappelle juste une chose, c'est intéressant. Quand le pape faisait, comment sortait une bulle, vous savez, les fameuses édits, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'était immédiatement applicable. En France, il fallait, pour que ça devienne applicable, que ça soit enregistré par le Parlement de Paris. Et c'est tout à fait intéressant parce que le Parlement, de temps en temps, faisait la résistance et n'enregistrait pas. Donc, il y a des lois, je pense bien sûr à une bulle particulière, in eminenti, elle n'a jamais été appliquée en France parce que tout simplement, les parlementaires, enfin le Parlement de l'époque avait dit non, on ne la reçoit pas dans l'ordonnancement juridique français.
Et tu disais, parce que moi c'est toujours quelque chose qui me perturbe, finalement pour toi, quand on dit qu'il y a une laïcité à la française, tu trouves que c'est une expression qui est
non,
juste.
Je te vois venir.
Non, mais je
plaisante, parce qu'on entend parler de laïcité ouverte, pour moi il n'y a pas de laïcité ouverte ou de laïcité je ne sais pas quoi, il y a la laïcité, mais si, on peut quand même parler de laïcité à la française, parce que on a une loi que, d'ailleurs, bien des pays nous envient, il ne faut pas l'oublier, et même des pays très cathos. Je pense, par exemple, en Irlande, quand on voit la déchristianisation de l'Irlande, c'est quelque chose. Donc, c'est quand même quelque chose de proprement français. Et c'est tellement français qu'il y a des langues dans lesquelles on n'a pas la possibilité de... Les Allemands, ils traduisent ça comment ? Laizismus. Ils n'avaient pas un mot pour rendre compte de ça. Donc c'est quand même quelque chose de très français, mais qu'on n'arrive pas bien à exporter. Les États-Unis, par exemple, et l'Angleterre sont sur des positions, puis on parlait tout à l'heure, de communautarisme. Vous savez qu'en Angleterre, on a même des tribunaux islamistes qui se permettent de juger des affaires qui intéressent les musulmans. Et aux États-Unis, on est quand même un peu dans cette situation-là. Hein. Et d'ailleurs, le président des États-Unis jure sur la Bible encore aujourd'hui. Et sur leur billet de banque, il y a toujours « In God we trust ».
Mais la Constitution, pourtant, marque bien cette séparation, normalement. Elle n'est pas... faudrait vérifier, mais je ne crois pas que la Constitution des États-Unis inclut normalement cette... la devise, c'est « Pluribus in unum », normalement, quelque chose comme ça, la vraie devise...
Il y avait tout un débat, il y a eu une émission que j'ai trouvée intéressante, au moins sur le plan de l'information. La question était posée, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont strictement laïcs ? Et la réponse qu'on faisait dans le temps, c'était la Turquie. Bah, c'est bien fini, hein, de toute façon, mais c'était pour des raisons un peu différentes. Mais on avait parlé du Portugal, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une loi de 1905.
Une loi aussi claire de séparation. Alors, on rappelle que cette loi, elle exige la neutralité des fonctionnaires de l'État, la neutralité de la sphère publique. Hein, c'est essentiellement l'objet de cette loi. Et qu'elle s'appliquait pour toutes les religions. Elle ne s'adressait pas spécifiquement à l'Église catholique. C'est Absolument. Elle qui a réagi parce qu'elle était la plus majoritaire, etc., que la rupture était bien, bien forte avec elle. Mais il y avait donc d'autres religions. Et puis, il faut préciser aussi qu'elle ne s'est quand même pas pour autant appliquée partout. D'une part, en Alsace-Moselle, qui a encore aujourd'hui un concordat.
Mais dans les îles.
Dans les îles, en Guyane notamment, il y a encore quelque chose qui renvoie à l'époque de Charles X, si je me souviens bien.
Peut-être bien.
Et puis, que dans les colonies, le statut particulier que les...
En Nouvelle-Calédonie, c'est pas compliqué.
Voilà.
Et d'autres, je ne sais plus lesquels. Oui. C'est pourtant le triptyque républicain, le même pour tous. Voilà. Liberté, égalité, pas d'égalité.
Oui, parce que dans les colonies, il a été décidé de ne pas faire appliquer la laïcité.
Notamment en Algérie. C'est bien le problème qu'il y a à l'heure actuelle aussi avec le culte musulman, parce que ça a été maintenant manipulé d'une autre façon. Quoi. Mm-hmm.
Alors qu'il pouvait y avoir une demande à cette époque-là pour que la loi s'applique...
Disait l'Algérie était française à l'époque, c'est ce qu'on disait.
Oui, c'est ce qu'on disait, mais enfin, il y avait quand même français et français. Hein. C'est-à-dire
bien
que
sûr,
tout le monde n'avait pas,
bien sûr,
n'avait
mais
pas les mêmes droits.
Il n'y a pas eu donc d'application de la loi, notamment dans pratiquement toutes les colonies de l'époque. Hein. Ça constait parce qu'il y avait une religion qui était dominante en Algérie, c'était le rite musulman. Hein.
Mais il y avait une demande quand même aussi de cette application de cette laïcité, parce que justement le fait que la loi ne s'applique pas a été perçu comme une façon de faire du sous-citoyen en fait, de ne pas accorder aux Algériens le même statut que les Français.
On a tendance, et c'est pas faux, de dire toujours que les églises étaient hostiles à la loi de 1905. Moi, j'ai travaillé sur des archives il y a longtemps, l'église protestante était favorable. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'eux étaient en situation de déséquilibre complet par rapport à l'Église catholique. Il y avait un bulletin, je n'ai pas réussi à le retrouver. J'avais même téléphoné un jour à Bobéro.
Jean Bobéro, grand spécialiste de la question de la laïcité.
Et je lui avais cité la revue, le nom, et ils ne l'ont jamais trouvé. Mais à Nancy, il y avait une revue protestante qui était favorable à la séparation des églises et de l'État. Mais il y a quand même une chose qui est intéressante. On a toujours tendance à nous dire « c'est une loi anti-catho et tout ». Il faut savoir que si ça a fait l'objet d'une tractation, et c'est vrai, d'un compromis, il faut savoir quel était l'état de l'opinion française à l'époque. Et justement, Nancy, il y avait deux ou trois régions qui étaient, mais alors, catholiques. La Vendée, bon, c'est pas nouveau, la Bretagne. Mais il ne faut pas oublier que la Lorraine était extrêmement marquée par le catholicisme. Il suffit de voir les envolées lyriques de l'épiscope nancéen, Monseigneur Turinaz à l'époque. Mais enfin, bon, il foutait le feu partout. Hein. Et on sait, par exemple, que tu as fait allusion aux inventaires. Il y a eu mort d'homme. Alors, il y a eu mort d'homme à Bechep, par exemple, c'est dans le Nord. Il y a eu mort d'homme à Saint-Nicolas-de-Port.
Donc les inventaires, c'est-à-dire que l'État a voulu faire l'inventaire des biens.
Voilà, des tabernacles notamment.
Voilà, de l'Église. Et donc là, il y a eu dans certains endroits une opposition très très forte des fidèles eux-mêmes et des religieux, jusqu'à des affrontements physiques qui ont été rares, mais qui ont existé. Et effectivement, tu disais à Saint-Nicolas-de-Port, un mort.
Ah ben, l'abbé Claude a tiré une balle dans le dos d'un libre penseur, il est présenté comme ça à l'époque. Quand on tire dans le dos de quelqu'un, c'est difficile de faire passer ça pour de la légitime défense. Or, il est passé devant une cour aux assises. Il a été acquitté. C'est quand même invraisemblable. Et il faut rappeler quand même que à Nancy, par exemple, les autorités entendent procéder à l'inventaire de la cathédrale. Comme Turinaz en est informé, il fait venir quelques centaines de calotins, mais il s'oppose physiquement, et ça marche, il ne faut pas l'oublier, mais le préfet et les autorités de l'époque se disent, ils nous ont eu une fois, pas deux. Et le 13 mars 1907, il y a des dragons, et je ne sais plus quel autre régiment de militaires, ils cernent complètement la cathédrale et ils vont crocheter la porte latérale pour rentrer dans la cathédrale. Il y a des cathos qui se sont réfugiés là-dedans, ils ont mis du fil de fer partout, enfin, faut voir. Et là, il y a eu effectivement des affrontements. Il n'y a pas eu mort d'homme à Nancy, c'est sûr, mais il y a eu des affrontements terribles et il y a plein de cartes postales, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a plein de cartes postales où on voit la querelle des inventaires. Un mot sur les inventaires. Tu l'as dit, selon la loi, il fallait qu'on fasse l'inventaire du patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'on créait ce qu'on appelait des associations cultuelles. Et là, l'Église s'y était pas trompée. Et surtout, la hiérarchie catholique, elle se disait, s'il y a des associations cultuelles, nous, là-dedans, on perd notre autorité. Et donc, ils se sont battus comme des chiens, mais surtout sur un truc, le tabernacle. Ah, le symbole du tabernacle. Mmh. Et c'est là-dessus qu'ils se sont beaucoup battus. Et c'est vrai que le gouvernement a reculé, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, le gouvernement est tombé là-dessus. Il ne faut pas minimiser ça.
Alors justement, je vous propose, après notre première pause musicale, de faire un lien avec le temps présent, parce que ce combat pour la laïcité, c'est une guerre aussi qui se mène un peu au quotidien, et notamment aujourd'hui, on sait bien comment dans les médias des milliardaires financent des organes de presse, de radio, etc., pour diffuser leurs propres idées politiques et religieuses. Or, dans le milieu associatif aussi, il y a quelques problèmes qui émergent, et on va avoir le plaisir d'échanger avec une journaliste qui a travaillé sur le sujet. Nous allons l'écouter et je la présenterai juste après cette première pause musicale de Pharrell Williams, Freedom.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower. To eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Freedom!
we are from heat. The electric one, does it shock you, see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom! 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 Freedom, freedom, freedom.
RCN, raison gardée, avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Annabelle Martella. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Annabelle Martella, j'ai trouvé votre nom dans un article passionnant de Basta, qui nous rend compte d'une enquête très intéressante et très poussée, et qui nous a mené à trouver quelque chose qui nous intéressait à Nancy, c'est-à-dire une association qui pose quelques questions. Alors, dites-moi si je dis une bêtise, vous faites partie, vous avez fait ce travail dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Hors Cadre, vous êtes 8 médias.
Oui, en fait, Orcad, c'est un collectif dont je fais partie. On n'est que des journalistes indépendants qui écrivons pour plein de médias différents. Et en fait, on s'est mis tous ensemble pour répondre à un appel à projet qui a été lancé l'année dernière par le Fonds pour la presse libre. Et en fait, c'était un appel à projet pour enquêter sur l'extrême droite. Et donc, on a lancé ce projet avec énormément de force dans le collectif pour enquêter sur les associations qui étaient à la fois financées par de l'argent public et à la fois financées par le milliardaire réactionnaire Pierre-Edouard Ferrand. Et en fait, on a réussi à agréger autour de ce projet plusieurs médias indépendants. Donc, vous avez cité Basta, où vous avez vu notre... Parce qu'en fait, avec WeDo Data, on a créé une carte de France qu'on a publiée sur Basta, où on a répertorié toutes les associations sur lesquelles on a enquêté. Et l'association que vous avez vue, qui se trouve à Nancy, et sur laquelle j'ai enquêté, elle s'appelle Familia. Et j'ai publié là, cette fois, cette enquête-là à Médiacité Lyon, qui est un média d'investigation... lyonnais, parce qu'en fait, cette association, avant de venir à Nancy, elle s'est créée à Lyon.
Oui, et donc dans ce collectif, j'ai repéré aussi Arrêt sur Image, le Bondy Blog, oui. Reporters aussi, qui font partie des, et pour nommer tout le monde, La Déferlante, Le Poulpe, j'avoue que je ne connaissais pas Le Poulpe.
C'est un média d'investigation normandie, ouais.
D'accord, et La Disparition. Oui, oui. Alors, vous nommiez effectivement ce milliardaire que vous suiviez, Pierre-Edouard Sterrin. Peut-être en dire deux mots pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ce personnage?
Bien sûr, en fait, Pierre-Edouard Sterrin, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune avec les coffrets cadeaux Smartbox. Donc, c'est un peu comme ça que les gens peuvent le connaître au départ, parce que c'est assez populaire. On en trouve encore dans les commerces pour faire des cadeaux qu'on n'a pas d'idée de cadeaux. Et en fait, donc il a fait fortune notamment avec Smartbox. Et Pierre-Edouard Sterrin a décidé de mettre sa fortune au service de son projet politique, qui est aussi un projet chrétien. Et en fait, il agissait de manière assez discrète jusqu'à ce que l'humanité révèle en 2024 le plan Périclès. Donc c'est son plan politique pour faire advenir l'extrême droite au pouvoir et pour financer des projets qui luttent, selon lui, contre les maux de la société, qui seraient le socialisme, le wokisme, l'immigration. Donc en fait, c'est un vrai projet politique auquel il met de l'argent, auquel il met au service sa fortune. Et donc, en fait, sa fortune, enfin voilà, lui, il souhaite agir dans les sphères politiques, économiques, médiatiques, mais également, en fait, il agit depuis 2017 dans les sphères associatives via un gala de charité qu'il a co-créé, qui s'appelle les Nuits du Bien Commun. Et dont, en fait, c'est des galas de charité qui s'organisent dans toutes les villes avec... de France, avec souvent la bourgeoisie de ces villes-là, les chefs d'entreprise, etc., qui vont venir et qui vont être amenés à faire des dons défiscalisables à ces associations. Et donc, en fait, les associations sont avant triées sur le volet et à partir, nous, de la liste des associations lauréates à ces soirées, on en a trouvé bah déjà une quinzaine que vous trouvez sur cette carte qui sont proches de mouvements anti-IVG ou de mouvements catholiques traditionnalistes. Voilà.
Oui, il y a des choses assez édifiantes. Vous parlez d'une un de vos collègues a travaillé sur une colonie de vacances paramilitaire. Oui. Enfin, c'est des choses assez sidérantes. Donc, c'est une sorte de un mélange de radio crochet et crowdfunding pour identitaire catholique convaincu autour de ces nuits du bien commun. Alors, je suis d'autant plus navrée que ça s'appelle le bien commun que à Nancy, il y a une association qui s'appelle le bien commun qui n'a rien à voir avec ce monsieur qui travaille sur les projets de la métropole et qui rassemble plutôt des gens issus de la gauche, d'attaque et de mouvements politiques bien ancrés à gauche qui se retrouvent par leur nom malheureusement de loin peut-être pour ceux qui ne les connaissent pas confondus, mais qui n'a rien à voir à Nancy avec le bien commun de Sternin. Et donc effectivement, alors comment vous avez... Donc c'est parce que cette association Familia a obtenu justement des financements lors de cette soirée que vous avez levé ce lièvre-là et découvert cette association donc, qui était d'abord à Lyon. C'est bien cela ?
Oui, en partie. En partie. En fait, donc Familia avait été plusieurs fois lauréate des Nuits du Bien Commun et surtout, elle est aussi financée par le Fonds du Bien Commun qui est là le fonds philanthropique direct de Pierre-Édouard Sterrin. Donc déjà, il y avait ces deux financements très liés à la sphère Sterrin. Et ensuite, ce qui m'a poussée à m'intéresser à cette association, c'est qu'en fait, donc, comme on disait, elle est née à Lyon et il y a ses premières antennes, la majorité de ses premières antennes se trouvent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, là, en 2026, va s'installer une nouvelle antenne Familia à Saint-Étienne. Et en fait, à Saint-Étienne, elle a reçu un financement de 50 000 euros de la région. Et il y a Joanne César qui est un élu socialiste d'opposition à la région qui siégeait dans cette commission, qui en fait a alerté les médias locaux avec un communiqué de presse en disant bah voilà, je ne comprends pas, en commission, on nous a présenté cette association qui se targue d'accompagner des couples en crise et qui startent de chiffres, c'est-à-dire de dire ah bah nous 70% des couples qu'on accompagne ne divorcent pas. Je vois aussi qu'il y a des ateliers qui parlent de contraception naturelle, mais avec une vision qui a l'air assez traditionnelle, etc. Et donc en fait, lui s'interrogeait et il s'interrogeait aussi sur le fait que cette association, personne n'en avait entendu parler sur Saint-Étienne. Elle s'installait dans des locaux qui étaient les locaux du diocèse. Et tout de suite, elle reçoit 50 000 euros. Enfin, en tout cas, tout de suite, on propose une subvention très forte. Et donc, ça lui a mis la puce à l'oreille. Et moi, en fait, donc il a alerté la presse. Il y a eu un article dans Le Progrès. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai un peu remonté le fil de cette association.
D'accord. Et alors, comment expliquer qu'une association comme ça, alors moi je l'ai regardé sur le site à Nancy, alors effectivement, je trouve que bon, ce qui est annoncé rejoint ce que vous disiez à l'instant, mais en plus les photographies qui accompagnent le site, je trouve, sont assez révélatrices du profil de famille qui pour eux représente un idéal, c'est quand même assez, assez sidérant. Alors, comment expliquez-vous que des mairies, donc vous avez trouvé qu'à Nancy, la mairie, la métropole, la caisse d'allocation familiale contribue à financer cette association. Comment est-ce que c'est possible ?
Alors je crois qu'à Nancy, si je me trompe, c'est uniquement la métropole. Je ne sais pas s'il y a aussi la mairie, parce que je me suis intéressée plus sur Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a la métropole de Nancy, mais là, la ville, là, comme ça...
D'accord, bon, je vérifierai.
Ça a vérifié. En fait, il y a plusieurs raisons. Par exemple, moi, sur les villes sur lesquelles j'ai pas mal enquêté, notamment à Lyon, vous avez la métropole écolo qui finance, par exemple, Familia. Et on peut s'interroger, parce que autant que la région qui a été présidée pendant longtemps par Laurent Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, finance ces associations, on peut se dire que...
ça ne nous surprend pas trop. Ouais.
Un alignement idéologique des élus de cette région. Mais une métropole écologiste ou socialiste, c'est vrai que ça interpelle. Et en fait, ce que j'en ai conclu, mais aussi avec les autres journalistes de mon collectif, avec qui on a enquêté sur plusieurs associations qui était financé par l'argent public, des associations qui avaient la même couleur que Familia, c'est qu'en fait, on se rend compte que les collectivités, elles vont recevoir énormément de dossiers, et souvent au dernier moment, et en fait, elles sont pas si regardantes, en fait, sur les dossiers qu'elles reçoivent. Alors, il y a certains élus qui vont prendre le temps d'essayer d'analyser et de faire comme une mini-enquête derrière les dossiers qu'ils reçoivent. Mais il y a aussi je me suis rendu compte, au cours de mes enquêtes, beaucoup de collectivités qui financent des associations qui ont l'air sur le papier très bien, qui ont d'autres... elles se disent, ah, bah, elle est déjà financée par la CAF, ou par le ministère de la Justice, ou elle est déjà financée par cette région, puis elle dit qu'elle est à concessionnal, elle dit qu'elle est apolitique, etc. Et ces médiateurs sont diplômés d'État. Donc, en fait, il y a ces indicateurs-là, et je pense qu'après, ils ne vont pas au-delà, et ils disent, bon, bah, rien à signaler, ça a l'air super. Et puis, ça, c'est plus mon interprétation. Je pense que aussi dans une période où il y a un contexte budgétaire très compliqué sur les associations, on voit par exemple que le planning familial connaît des grosses restrictions de subventions. En fait, je pense que peut-être qu'au niveau des collectivités, ça peut rassurer d'avoir des associations qui ne reçoivent pas que de l'argent de l'État, pas que de l'argent public. Et peut-être ils se disent, ah bah ça a l'air solide, ils ont aussi des mécènes, alors que à titre, en tout cas journalistiquement, il est intéressant de s'intéresser à qui sont ces mécènes, puisque quand on reçoit de l'argent de telle ou telle fondation, on peut toujours s'interroger, mais pourquoi ? Enfin, c'est pas neutre de recevoir de l'argent de Pierre-Édouard Sterrin, comme c'est pas neutre de recevoir, si on prend Familia, de l'argent de Stella Domini, qui est une fondation qui est connue pour financer des associations anti-IVG, ou des organisations comme le CEDRE, qui est, elle, liée à la communauté d'Emmanuel, qui est une communauté chrétienne traditionnaliste. Donc, en fait, quand on reçoit ce type d'argent, en plus, parce que là, en fait, Familia ne reçoit pas que de l'argent de Sterrin, elle reçoit aussi de l'argent de ces fonds-là, bah, on peut s'interroger.
Oui, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il faut dans ce cas-là que les élus creusent effectivement la question. Je viens de vérifier en même temps sur les documents qu'on avait trouvés sur le site de Familia Nancy. Ils remercient tous leurs donateurs partenaires et on voit le logo de la ville de Nancy, en plus de celui de la métropole du Grand Nancy, avec l'Église catholique de Meurthe-et-Moselle, la MGEL, la CAF, le Fonds de dotation Caisse d'épargne, oui, effectivement, la Fondation de Vendel aussi, qui est dans l'Est... bien connu. Oui, donc on peut s'y tromper. Et c'est vrai que si on regarde le site, enfin, il y a aussi un décalage peut-être entre la vitrine, l'aide aux familles, l'accompagnement des parents solo, une facilitation du dialogue entre parents et enfants. Il y a quelque chose qui paraît effectivement, comme ça, à y regarder rapidement, finalement, peut-être nécessaire, judicieux, bien vu, et qui peut expliquer aussi qu'on accepte de subventionner sans voir forcément ce qui se cache derrière. D'où l'intérêt de votre travail.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Alors c'est Jean-Claude qui prend la parole pour rappeler effectivement que les élus peuvent vouloir aider effectivement des associations, mais c'est vrai que donner d'une main au planning familial et de l'autre à une association comme celle-là surprend un peu. Alors, vos articles ont eu des effets, puisque j'ai cru lire que la mairie de Lyon revenait sur son financement.
La métropole, ouais. La métropole a annoncé, c'est une annonce pour l'instant, mais qu'elle ne renouvellerait pas sa subvention à Familia.
D'accord, donc grâce au travail que vous avez publié. C'est dire qu'on a vraiment besoin d'une presse indépendante et forte. Basta, comme d'autres médias, lance régulièrement des appels aux dons pour aider le travail justement de ces journalistes. Je vous invite à aller sur leur site pour les aider. Parce qu'effectivement, en face, il y a un rouleau compresseur qui, lui, sait où trouver ses financements et qui se bat pour ses idées. Beaucoup de conviction.
Tout à fait. Et là, en l'occurrence, cette enquête-là, elle a été publiée sur Mediacité, qui fait également un appel aux dons et qui est un média d'investigation qui se trouve dans plusieurs villes de France, Lille, Lyon, Nantes. Et en fait, oui, de prendre ce temps-là, nous, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment d'intérêt général, en fait, d'enquêter sur ce type d'association et de prendre le temps d'aller voir d'où viennent leurs autres financements privés, d'aller voir aussi où ils sont formés, parce que il y a, par exemple, si on prend en Familia, leurs conseillers conjugaux, il y en a énormément qui sont formés au CLER Amour et Famille, qui est, enfin, peut-être que vous connaissez, qui a été créé pour combattre le planning familial à l'origine. Et donc, en fait, ces associations, comme vous dites, en fait, quand on regarde leur site, on peut complètement se tromper. Des personnes qui sont vulnérables peuvent complètement se diriger vers ce type d'association, des bénévoles aussi. Et puis quand on voit les logos de la CAF, les logos de la région, c'est des signes qui rassurent les personnes. Et je pense qu'au sein même de ces associations, les personnes pensent réellement aider des couples en crise, des familles. Mais en fait, derrière ça, il y a aussi une idéologie. En fait, oui, ils aident les familles, mais ils rejoignent un certain idéal. Parce que quand on voit que Familia a notamment fait une étude avec le cabinet de conseil en stratégie Hatch, où en fait dans cette étude, elle montre le divorce comme source de tous les maux. En fait, ils ont été chercher par exemple que le divorce était la première cause de pauvreté, de manque de logement en France. Et du coup, la majorité des détenus, des sans-abri ou des mineurs qui se suicidaient avaient été élevés dans des familles monoparentales.
D'accord.
Donc en fait, quand on voit aussi ce type d'étude qui est financé par ces associations-là, même si, bien évidemment, je pense que sincèrement, elles se disent on va aider les enfants, on va aider les familles, mais quand on a cette vision-là du divorce, comme oui, c'est à cause du divorce qu'il manque des logements sociaux en France, on peut complètement aussi s'interroger. Alors du coup, on va dire aux gens qu'il faut mieux ne pas divorcer, qu'il faut mieux... Alors bien évidemment, les gens, qu'il y a un rapport que c'est important de réfléchir à comment on communique mieux dans les couples, dans les familles. Ça, ça me paraît nécessaire, bien évidemment. Mais pourquoi ces associations font ça? En tout cas, pourquoi Familia le fait? Ça, c'est une autre question.
Oui, c'est-à-dire que derrière, en fait, l'idée, c'est un certain type de famille leur paraît le seul type naturel, acceptable, porteur, etc. C'est-à-dire au nom de réflexion pour trouver ce qui crée des problèmes, les conséquences des crises familiales, etc. Le discours qui peut être développé ainsi, c'est aussi de dire il faut absolument rester en couple même si ça ne va pas dans le couple. Il faut Et donc on voit bien ce que ça peut cacher aussi par rapport à une vision de la société. Oui, c'est tout à fait alarmant.
En tout cas, eux, ils ne le disent pas de cette manière, parce que si vous le dites de cette manière, eux vont vous dire que non, ils ne font pas du tout ça. Mais en soi, il y a quelque chose de dire bon bah il y a une crise dans votre couple, au lieu de se séparer, on va travailler sur cette communication, qui peut être en soi totalement bénéfique. Mais dans la société qui est la nôtre, qui est une société quand même où il y a énormément de violences sexistes et sexuelles, et au sein du couple et au sein des familles, c'est quand même, en tout cas c'est chiffré, etc. Il me paraît, moi en tout cas, assez malheureux d'avoir un discours comme ça sur la séparation. En tout cas, de montrer ça dans des chiffres, des études, alors qu'on voit qu'il y a plein de femmes qui restent en couple dans des situations qui sont violentes. Donc oui, je dis pas que eux le font, mais en tout cas, l'idéologie sous-jacente est inquiétante en termes de pour le droit des femmes et des minorités. Et on le voit par exemple sur... Moi, dans cette enquête, j'explique comment j'ai assisté à des interventions publiques ou à des rendez-vous à Familia sous couvert d'anonymat. Et en fait, oui, il y avait un discours. En fait, vous n'allez pas avoir des conseillères qui vont vous dire frontalement « il ne faut pas avorter », etc. Mais c'est un argumentaire subtil qui vous pousse à douter de votre réelle envie d'avorter. Par exemple, moi, voilà, j'ai fait un rendez-vous où j'expliquais que j'avais envie, enfin que je voulais avorter, Et en fait, il y avait, la conseillère en face de moi était bienveillante, elle utilisait la communication non violente, etc. Mais par exemple, elle n'arrêtait pas de me dire que j'étais enceinte, donc j'étais bourrée d'hormones, et que ces hormones-là peuvent me mener à être dans une confusion émotionnelle. Et quand j'ai fait écouter l'enregistrement de ce rendez-vous à un expert du planning familial, c'est complètement ce qu'il a noté. Et également sur la question du lesbianisme, elle minimisait totalement le désir qu'on pourrait avoir pour une femme en disant vous n'avez pas eu de relation avec des filles quand vous étiez adolescente, maintenant c'est normal quand on est une femme de se sentir très à l'aise avec les autres femmes et parfois de dire des choses qu'on dirait pas à son conjoint, donc voilà, en fait vous sentez juste bien avec les femmes,
oui, c'est pas forcément une amitié du désir, quoi. Oui, on voit bien comment le discours effectivement n'est jamais frontal dans ce cas-là.
Oui, et c'est ça qui est difficile en fait à prouver, parce que en fait, quand vous allez dans ce type d'association ou quand on vous décrit une association comme ça avec un président comme le président Tamia qui est passé par des mouvements perçus comme sectaires, comme l'Opus Dei, le Chemin Neuf, qui va intervenir dans des endroits comme Alliance Vita, qui sont connus pour être anti-IVG, on se dit, on va arriver dans un endroit qui n'est pas du tout ouvert, et on va nous dire, l'avortement c'est mal, l'homosexualité c'est mal, et en fait non. C'est au début, on vous accueille à bras ouverts, etc. Et c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et d'ailleurs, moi, pareil, dans une intervention publique à laquelle je suis allée sous couvert d'anonymat, qui était animée par une sage-femme, dont après j'ai retrouvé son nom dans des sites, des réseaux pro-vie, donc des réseaux anti-choix. Cette sage-femme nous expliquait ce qu'était la méthode dite naturelle, donc une méthode qui consiste à regarder sa glaire cervicale pour pouvoir voir si on est enceinte ou pas. Et en fait, derrière, ça se cachait derrière un argumentaire qui est nous, en tant que femmes, on ne connaît pas assez notre corps, etc. Ce qui en soit pareil, une volonté louable de mieux connaître son corps, comment il fait son sexe, etc. Mais derrière ça, en fait, on ne parle jamais du préservatif. La pilule, elle est essentiellement montrée comme une contraception dangereuse. Et après, vous avez un couple qui vous explique que pendant les moments où la femme est fertile, il reste abstinent et que ça leur permet de mieux se respecter. C'est quand même une vision de la sexualité qui est biaisée. Ça veut dire que déjà, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ne pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça voudrait dire plus le respecter. Pourquoi ça? Et deuxièmement, ça veut dire aussi que ça envisage la sexualité que sous la forme du coït, d'un script très hétérosexuel, patriarcal, qui pense pas le plaisir de la femme, en fait. Toi, t'es fertile, du coup, on peut pas faire l'amour parce que je peux pas te pénétrer. Donc déjà, il y a cette vision-là. Et après, en fait, ça va se cacher aussi derrière des argumentaires écolos ou féministes avec ce monsieur qui disait « Moi, je suis pas comme les autres hommes qui dit « Prends ta pilule et je baisse quand je veux. Moi, je respecte ma femme. » C'est très insidieux. Ça se cache derrière des choses qu'on... En tout cas, des argumentaires qui sont parfois étonnants et qui appartiennent parfois plus au champ lexical de la gauche.
D'accord. Oui, parler de respect, etc., effectivement. Et puis c'est vrai que les personnes qui sont dans les différentes associations n'ont pas forcément connaissance de tous ces liens que vous avez réussi à établir entre les financeurs de ces associations et le projet qu'ils portent. Ici, avec moi, j'ai l'avis Jean-Claude qui veut dire quelque chose.
Oui, je vous entendais parler du préservatif, etc. Moi, j'ai eu une fois une discussion avec un ami qui faisait de la catéchèse. Même si je suis un bouffeur de curé, ça ne me dérangeait pas, c'était un mec très bien. Et il avait 4 gosses. Et un jour, il a dit à sa femme, écoute, la pilule, c'est vrai que ça n'a pas que des avantages, je vais me faire vasectomiser. Et il a eu le malheur de dire ça dans la communauté qu'il y avait autour de lui. Il a été mis au banc de la communauté. Il ne va même plus à l'église dans son patelin. Il est obligé de changer. Je veux dire, et là, c'est moins subtil, d'ailleurs, je trouve, comme argument. Mais ça va jusque-là.
Oui.
Mais après, en soi, en tout cas, dans le travail journalistique que je fais, je n'ai pas de vision morale sur la manière dont les gens... ont des rapports sexuels, choisissent leur contraception. La problématique, pour moi, c'est qu'en fait, ce soit financé par l'argent public. Parce qu'en soi, que si familial, il n'y avait que de l'argent privé, bon, bah...
Oui, c'est parfaitement libre de porter ce genre d'atelier, de conférences.
Les métropoles, qu'est-ce que ça envoie comme message de qu'est-ce qu'on a envie de défendre comme droit à la santé,
comme vision de la société.
Comme vision de la société.
Et aussi comme vision de la femme, de l'homme, enfin la famille, un papa, une maman, enfin voilà, un peu tout ça.
Et oui, donc ça pose complètement ces questions-là. Et quand on voit, comme on dit, que le planning familial a des restrictions budgétaires de plus en plus conséquentes, ça pose vraiment question. Et en plus, moi, pareil, dans l'enquête, j'ai retrouvé des moments où, en fait, le président de Famille avait parlé à la presse catholique, dont la vie, et où il expliquait concrètement que Famille était certes un confessionnel, c'est un lieu pour lui d'évangélisation. Donc ça pose aussi la question de la laïcité. Quand vous voyez qu'il y a énormément d'associations dans les quartiers qui sont accusées de faire du prosélytisme dans le cadre, enfin voilà, de promouvoir l'islam et que c'est une manière, en tout cas, de parfois de réduire les subventions de ces associations. Et quand on voit à côté des associations catholiques qui, elles, peuvent se permettre de dire ça dans la presse et qui sont subventionnées par toutes les collectivités de France et de Navarre, il y a en tout cas une question d'équité qui me paraît aussi
et qui mérite d'être posée
à double vitesse.
Oui. Surtout qu'on a eu tout ce débat autour de la loi dite du séparatisme qui manifestement se préoccupait davantage effectivement de certaines associations que d'autres. Et bon, on connaît le problème de la stigmatisation d'une partie de nos concitoyens plus qu'une autre. Oui, c'est sûr qu'on peut s'étonner.
Vous disiez tout à l'heure, quand c'est des associations privées, après tout, je comprends, mais en même temps, on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont extrêmement friqués, on parle de ce terrain, on parle de Bolloré, des gens comme ça, ils ont une force de frappe économique importante. Et là, le milieu associatif, à mon avis, a tout son rôle à jouer pour s'opposer à ces tentatives de manipulation de l'opinion.
D'où l'importance...
Oui, mais le problème, excusez-moi, mais le problème, en fait, c'est que le milieu associatif est de plus en plus précarisés, puisqu'ils vont recevoir de moins en moins de subventions. Et donc, en fait, ils deviennent de plus en plus vulnérables à ce type de financeurs qui, eux, arrivent et peuvent vous financer. Et quand ces associations sont prêtes à mettre la clé sous la porte, et ben, y en a qui sont parfois même, qui peuvent être plus éloignés que, par exemple, Familia de la pensée politique de ce terrain, qui peuvent se retrouver à faire des nuits du bien commun. Moi, maintenant qu'il est devenu très radioactif, je pense qu'il reste moins d'associations qui sont en inadéquation avec ces idées. Mais en tout cas, avant, quand il n'était pas sorti du bois, oui, je pense qu'il y a des associations qui se sont pincées le nez et qui y sont allées, parce qu'elles sont de plus en plus précarisées. C'est un vrai problème.
Oui. Ah oui, c'est clair que le milieu associatif est en très grande difficulté. Et vous avez tout à fait raison de pointer justement le problème des financements. Et c'est une des conséquences de ce manque de financement. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut des journalistes indépendants pour remonter toute la chaîne et démontrer tous ces liens.
Oui.
Annabelle, merci.
Merci beaucoup.
Vraiment beaucoup de vos explications et de votre travail. Donc, je rappelle, si vous voulez soutenir Basta, Médiacité, rendez-vous sur leur site pour leur filer un petit coup de pouce financier. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup, Annabelle.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
Oui, bah, c'était bien intéressant d'entendre cette journaliste rendre compte de son, de son travail.
Le problème de...
Oui, Charles, vas-y. Parle bien dans le micro. C'est juste ce que je voulais te faire.
On est on air.
Ah non, si, je crois. Ils sont vers Saint-Léon, non?
Oui, vers la rue Saint-Léon.
Vers l'église, l'école, il y a une école privée catholique, là.
Oh, il y en a plusieurs.
Oui, je crois.
Ben, il y en a une, Saint-Léon.
Mmh.
Ah, c'est là qu'ils sont. J'avais déjà vu, ils ont une vitrine.
Hein. Oui, non, ils ont manifestement...
ils sont visibles de la rue, là.
D'accord. La surprise, c'est pour ça que j'insistais sur l'importance du travail des journalistes, parce que, sans doute, ce qu'elle souligne bien, je trouve, Annabelle, dans son intervention, c'est-à-dire qu'il y a des personnes tout à fait... qui ont leur conviction et qui pensent bien faire et aider les personnes. Et voilà, comprendre exactement qui finance quoi est quelque chose qui me paraît effectivement important. L'enquête et tous les liens sont en ligne à partir donc de Basta. Donc Basta avec un point d'exclamation. Vous avez une carte de France et vous pouvez cliquer dessus et voir quelles sont les associations qui ont été identifiées. Donc c'est un collectif, comme elle l'expliquait, de journalistes qui a travaillé sur ce sujet. Et chacun y allait chercher, enquêter sur certaines des associations qui avaient obtenu des financements, notamment à la suite de ces nuits du bien commun qui permettaient à chacun de venir présenter des projets et d'emporter des subventions plus ou moins importantes.
Bah, ce que moi je remarque en tout cas et qui est inquiétant, c'est que ce sont souvent des gens extrêmement minoritaires. Quand on prend les catholiques, bon, je ne parle pas de la grande masse de ceux qu'on compte comme catholique, mais je parle des activistes catholiques, il n'y en a pratiquement pas, c'est vraiment... Et je lisais dans un journal l'autre jour, en fait, ces gens-là adhèrent à plusieurs associations, et donc on les voit partout, et ça donne une impression de mouvement de masse, ce que ça n'est pas. Et c'est aussi pour ça que je pense que le milieu associatif a tout intérêt à ne pas négliger ce combat. On va le voir, hein, on approche de période électorale, et c'est important que le milieu associatif se mobilise. Hein.
Bien sûr, mais le problème, il a sa rapport de force. La Nancy, tu crois qu'ils sont minoritaires? Quand on a vu les quarts qui sont partis de Nancy pour la Manif pour tous, je peux te dire que c'est des gens qui sont nombreux et qui ont des grands moyens.
Non.
Et c'est des cadres, c'est des gens qui sont dans l'armée, il y a un milieu intégriste à Nancy. Moi, je connais une famille où les gosses, ils vont pas à l'école publique, ils sont à l'école à la maison.
Ouais.
Et ils font des gosses comme les lapins.
Ouais. Moi, je crois que tu fais, ça fait illusion. Je pense que c'est des gens qui sont très, très minoritaires. Bon, il y a effectivement des différences selon les régions, mais il suffit de regarder la pratique religieuse aujourd'hui, où elle en est. Il suffit de voir la crise des vocations qui est absolument invraisemblable. Donc, il faut arrêter de penser qu'on voudrait nous faire croire qu'une majorité de Français sont catholiques. On nous explique ça. En fait, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on a vu dans les sondages, et notamment un sondage du Pèlerin, que les catholiques pratiquants même étaient loin de respecter les préceptes de l'Église.
Et tu lis les sondages du Pèlerin.
Et oui, bien sûr. Et il y en a eu un qui était passionnant parce qu'ils ont été très honnêtes. C'était sur la fin de vie, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse. Ils ont donné des résultats qui n'étaient pas différents des autres sondages, c'est-à-dire 90% de Français favorables. Mais ils avaient aussi discriminé les catholiques pratiquants, les catholiques non pratiquants. Et ils avaient montré que même des catholiques pratiquants étaient... pour l'IVG, était pour le suicide assisté et l'euthanasie. C'est clair. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça que je dis que c'est souvent des minoritaires. Ceux qui se sont mobilisés sur le mariage pour tous, c'était des excités mondains. Bon.
Des excités mondains.
Oui, mais ils sont toujours virulents. Et le problème, il est dans l'ambiance actuelle qui se passe mondialement.
Ça leur est favorable, bien sûr.
Où les religions reprennent du poids sur les élections. Quand on voit, on parle beaucoup des problèmes avec le culte musulman, mais il y a le problème aussi avec les évangélistes qui grimpent à une vitesse incroyable, même en France. Donc c'est aussi dans l'ambiance générale, vous avez un parti de droite et d'extrême droite qui est pour tout ça, c'est-à-dire qui financera ça. Madame Le Pen et Bardella, ils sont à la botte de ces gens-là.
L'occasion,
ils sont écoutés par les Le Pen et compagnie. Ouais.
Je crois qu'on aura malheureusement l'occasion de revenir sur ces sujets, et notamment les sondages, la façon dont on les présente et ce qu'on leur fait dire quand on pointe, par exemple, 35% de gens qui pensent que, alors qu'en toute petite ligne, on comprend que c'est 8% de la population et que dans ces 8% de la population, il y aurait 30% de... Voilà. On peut toujours bien regarder les petites lignes des sondages et surtout faire parler les chiffres comme on veut, c'est sûr. Messieurs, je vois bien que vous avez envie encore de discuter, mais l'émission se termine. Et donc, on se retrouvera, écoutez, le mois prochain, peut-être sur ce sujet-là, mais en tout cas sur le suivi du procès d'Ultime Liberté, Jean-Claude.
Oui, on aura l'occasion d'en parler, mais surtout à partir du 9 janvier, puisqu'on aura, le jugement sera rendu le 9 janvier.
Et donc, on pourra commenter cette décision lors de notre prochaine émission. À très bientôt, merci de votre écoute, merci Jean-Luc à la technique, merci RCN pour l'accueil. Au revoir.
Et toi, merci pour l'invitation.